Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto proposé par Kikinkout et Toupal de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur l'autoroute de l'info www.campuslille.com. Aujourd'hui, balade, aventure, interview et pèlerinage, c'est le sommaire de cette émission. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec Aurélien et Julien, deux jeunes motards, voilà, qui viennent juste de rentrer de leur périple sur l'île de Man pour assister à cette course mythique qu'est le Tourist Trophy. Julien, Aurélien, bonjour.
Salut.
Alors, c'était une première pour vous?
Ouais.
Vous êtes jeunes encore, hein, j'ai dit jeunes motards.
Jeunes, ouais.
Hein,
on est encore très jeunes, on n'a pas encore 30 ans. Donc
jeunes, ouais. Voilà. Donc une première là-bas, donc à l'île de Man. Tout de suite en un mot, comment on pourrait qualifier donc ces 15 jours de moto, que de moto, hein.
On va dire comme les Anglais, amazing.
Ah ouais.
Le mot qui est rien.
Waouh. Impressionnant.
Alors vous me dites que vous avez fait 3 fois le Mad Sunday là.
Ouais.
Mad Sunday, c'est tous les motards qui convergent là-bas sur l'île de Man et qui sont là-bas et on peut donc emprunter le parcours. Hein.
C'est ça.
En fait, donc il y a un morceau du tracé qui est là. Mountain Road, voilà la montagne qui est dans un sens,
sans limitation
de vitesse, voilà sur tout ça. Alors attention parce qu'il y a quand même les locaux qui la prennent en voiture, mais il y a aussi beaucoup de motos.
Il y a tout le monde alors sur la piste.
Il y a tout le monde. Il y a des mecs qui carsouillent
qui en plus, du lourd,
ouais, très fort
et qui s'y croivent.
Exactement.
Ouais. D'accord. Donc avec quelle moto? Tu avais quoi comme moto?
Moi je suis parti en 950 Adventure pour l'aspect, on va dire les bagages qu'elle permet de prendre, pardon. Voilà. Donc c'est pas fait pour ça, mais il y a quand même possibilité de s'amuser un petit peu. Quoi.
Ouais, vous avez voulu voir un peu comment était le circuit, peut-être vous avez fait ça, un peu l'expérience et puis la curiosité aussi.
Parce que là, c'est vraiment impressionnant, le circuit routier, il y a des postes de partout, des plaques d'égout, on se demande comment ils font, mais vraiment comment ils font. J'ai vu une vidéo tout à l'heure encore de Michael Dunlop dans la partie de Sulby, et la moto elle bouge dans tous les sens, c'est impressionnant.
Alors justement, c'est intéressant de faire ce parcours, parce que justement, là comme tu dis, là, on se rend compte un petit peu des difficultés un peu, c'est pas comme sur un circuit hein, où c'est bien plat, il n'y a pas de plaque d'égout, rien du tout. Et justement, on peut se poser la question hein, comment ces gens peuvent rouler à une telle vitesse.
Ouais, nous aussi, on se demande comment ils font. Je pense qu'on n'est pas tous séparés à ce niveau-là, c'est une certitude.
C'est top.
A little love will do.
Retour avec Aurélien et Julien qui ont, on va dire, participé à leur premier Tourist Trophy à l'île de Man. D'ailleurs, vous êtes payé le voyage, parce que, enfin, vous êtes offert un peu ce voyage, parce qu'il y a quand même un budget, quand même. Là.
Ouais, on s'est offert une belle semaine de vacances. Une belle
ça
semaine,
coûte combien ouais, maintenant? 15 jours. Vous êtes parti 15 jours
on
à peu près.
On est parti 10 jours. Le poste le plus important, c'est la traversée entre l'Angleterre et l'île de Man. Là, effectivement, il y a un billet de 320 euros rien qu'en traversée.
Donc, on prend le bateau à Liverpool ou Hecham. Hein, il y a deux solutions. Pourquoi aller à Hecham ou on peut prendre à Liverpool ou l'inverse? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un choix à faire là?
Ah bah, au final, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on prend les places qui restent parce que c'est vraiment.
Ah parce que quand tu reçois ton billet, tu dis bah non, tu vois que c'est à Hecham.
Ah non, ouais. Non, mais
c'est pas toi qui décides.
C'est quand tu veux aller sur le serveur là, pour réserver ton billet. Quand ça ouvre à 9h30, je sais plus, le 31 mai.
Donc, un an à l'avance.
Alors, voilà, donc, on peut pas se pointer comme ça à Hecham ou à Liverpool et tiens, je prends le bateau. Il n'y a pas de place.
C'est compliqué.
Ou alors, il faut attendre.
Il faut attendre.
Des jours, des nuits, il y a une place qui se libère.
On a quand même vu des mecs qui arrivaient et puis qui se pointaient sans réservation.
Alors?
Et ils ont réussi à avoir des places, mais suite au désistement, à mon avis, de certains. Parce que vraiment, un an à l'avance, tout est booké et nous, quand on a voulu réserver, je me suis pointé à 9h sur le site, tout était full. Au mois de mai de l'année d'avant.
Bien sûr.
Le serveur était full et on a pu se connecter uniquement à partir de 18h le soir même. Et donc là, du coup, on a pris les places qui restaient. Donc là, en l'occurrence, on est monté à Hecham pour revenir après le retour, on est arrivé à Liverpool.
Donc, tu ne prends pas non plus la date que tu as choisie. Hein. C'est la compagnie qui t'impose.
Les
places qui restent. Il y a une place le 5 juin et une autre le 11.
Quand tout est fini, deux jours après que tout soit fini. Mais...
Donc, il faut réserver donc un an à l'avance, ça c'est clair.
Sur le site de la Steam Packet Company.
Il faut au moins avoir 2000 euros dans son porte-monnaie.
Pour dormir en dur. Ouais, en camping, je pense qu'il y a moyen de.
On doit être autour de 1000 euros. Ouais.
Combien?
1000 euros, oui.
1000 euros seulement pour faire en budget.
Ouais.
Ça me paraît un peu court quand même.
Non, on doit pas être loin.
On doit pas être loin.
On doit pas être très loin.
Donc voilà, vous avez dormi dans une ferme, je crois.
Ouais, dans un camping à la ferme.
Un camping à la ferme.
Au nord de l'île, à côté du virage de Ramsey. Et ouais, vraiment très sympa. Mais c'est vrai que je pense. À l'avenir, on en avait discuté, on ira plus sur Douglas, là où vraiment...
Vous avez l'intention d'y retourner?
Ouais, en fait, faut profiter de la ville, où il y a vraiment toutes les activités, c'est Douglas, du coup...
Petite question, vous avez moyen de rouler là-bas ou pas du tout quand c'est la course? Enfin, il y a moyen de rouler en moto ou quand les courses sont arrêtées ou vous êtes à un endroit et il faut rester là, quoi?
Ah non, tu peux tourner, peux tourner autour du circuit, mais il faut se mettre vraiment à l'extérieur du circuit. Ouais. Après, tu peux
T'as pas le droit de traverser,
ouais, voilà.
Ça c'est sûr.
Surtout pas.
Donc du coup, soit tu te mets à l'intérieur, tu peux faire une journée en allant d'endroit en endroit, soit tu te mets à l'extérieur. Ouais. Et là, c'est sympa aussi.
Et donc,
parce
là,
tu
arrives à circuler en moto. Et puis,
tout à fait. Il y a des petites routes, tu te balades, tu t'arrêtes, tu regardes un endroit, tu repars.
Enfin, okay,
ce qu'on a fait plusieurs fois. Du coup, on a vu une dizaine d'endroits différents.
C'est 15 jours, en gros, à l'île de Man, le Tourist Trophy. Donc, la première semaine, les essais, le qualif, essai. Et deuxième semaine, c'est les courses.
C'est ça.
Donc, il y a un formatage aussi. Il y a une course tous les deux jours.
Ouais, c'est ça.
Normalement, quand il pleut pas trop.
Normalement, ouais.
Planning de départ.
Ah, comment ça marche?
Eh ben, on va dire que le vendredi, le samedi, ils font les premières courses. Ensuite, c'est donc pas le dimanche, mais le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc après, en fonction de la météo, ils arrivent à caler s'il y a jamais eu de la pluie, ils arrivent à décaler, à caler les courses entre dans les journées qui n'étaient pas prévues de course. Donc là, au final, il faut être quand même bien informé parce que c'est vrai que.
Oui, alors c'est le problème aussi, c'est l'information. Il y a une radio, en fait, Tourist Trophy. On peut avoir de l'info parce que c'est pas facile de reconnaître les catégories. D'autant plus que ça, c'est un circuit de 60 km, donc ils partent chacun leur tour, les concurrents.
Tous les 10 secondes.
Ouais. Voilà.
C'est vachement bien fait. Hein. C'est-à-dire que le site internet, on peut se connecter n'importe quand. Live timing, mise à jour, prochaine mise à jour midi, tu te reconnectes à la minute.
Intéressant d'y aller avec une console.
Alors maintenant, c'est plus simple parce que c'est vrai qu'on a l'accès, on a tous l'accès à internet sur
un téléphone aussi.
Ils te vendent des petites radios aussi portables.
Ah oui.
Du coup, c'est bien.
Ouais. Pour répondre à la question de Benoît, c'est que donc une course tous les deux jours, donc le jour où il n'y a pas de course, on peut visiter l'île.
Tu peux visiter l'île, ouais. Tu peux faire le tour de l'île.
Est-ce que vous avez visité l'île?
Ouais. On a fait un petit peu de
génial.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, il y a pas mal d'événements autour du Titi, hein, faut le savoir. Il y a des marques qui se regroupent. Hein, on a fait un rassemblement d'italiennes.
Alors, mis à part les courses, on voit quoi au Tourist Trophy?
Des musées, principalement des musées, des paysages, bien sûr. Quand même, faut le faire le nord de l'île. Là, on a fait la pointe de l'île, la pointe nord, la pointe sud. Des musées. des vrais passionnés qui ont des musées gratuits où on fait des dons, mais voilà, des motos magnifiques, principalement anglaises, hein, bien sûr, mais de toutes marques. Et ensuite, les rassemblements, voilà, de marques aussi qui
se produisent un peu partout dans le monde. Toutes les marques organisent un rassemblement dans la semaine, dans les 10 jours.
Je pense pas que ce soit les marques, mais des associations ou des passionnés, voilà,
ou les Italiens, ou des clubs, peut-être, anglaises, des clubs de marques. Voilà.
Là où on était aussi à Ramsey, il y avait aussi ils s'amusaient à faire des départs arrêtés sur 400 mètres. Donc quand il n'y a pas de course, on peut encore aller faire un tour là. Il y a des motos qui sont préparées dans tous les sens.
Je peux t'y inscrire avec ta bonne ville.
Avec ma bonne ville. Voilà. Là, c'est pas moi la bonne ville, je ne peux pas le faire. Ah. C'est... Ou si je le fais, je vais faire en cachette. Ah, bon, ouais. Bref, donc voilà. Alors donc c'est les motards qui sont là-bas qui viennent et qui font des...
Ils font des départs arrêtés, ouais, ils s'amusent à faire des courses, ouais, avec des motos complètement trafiquées. Parce que là-bas, au final, ils roulent avec des machines vraiment pas bricolées, mais on a vu des motos vraiment bien préparées.
De limite.
Ils mettent vraiment le paquet sur leur moto. Hein.
D'accord. Bah, je sais qu'il y a eu beaucoup de pluie.
Un peu.
Hein. Bon, on va passer à un morceau de musique et on va revenir sur la pluie. Aurélien, Julien, on va revenir sur la météo, la pluie, le soleil. La pluie, le soleil, c'est une île. Hein.
C'est une île, ça change
très vite. Ça, voilà. Donc, il vaut mieux peut-être. Vous avez campé et quand je sais que vous avez pris de la pluie pendant près de 10 jours. Et au bout d'un moment, ça ne sèche plus.
Ça sèche plus.
Il faut trouver des solutions.
Il y a les matelas qui flottent après. Ça devient compliqué, mais bon, on s'est bien marré quand même. Hein. Ça fait des anecdotes.
Voilà. Donc, peut-être préférable de trouver un gîte ou une auberge, évidemment, avec un budget un peu plus.
Ou une bonne tente.
Une bonne tente,
Oui, parce qu'elle a percé votre tente.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Il est sucé avec la tente. Du coup, on s'est pris un peu la bâche sur le
nez. C'était pas marrant qu'il pleuve déjà normalement. Vous êtes trouvé, vous avez dit tiens, on va prendre une tente qui perce, comme ça, ça sera encore plus marrant.
Voilà.
Hein ça mais c'est des trucs à raconter. Bon, je vais aller à Paddock.
Eh ben, alors tout est accessible, c'est super, on peut rencontrer ses idoles, voilà, contrairement à d'autres sports moto où maintenant c'est impossible ou très cher. Là, c'est vrai que c'est super. Alors, ce qui est impressionnant de voir, c'est les gros teams qui checkent chaque moto entre chaque course complètement. Ouais. Il n'y a aucun droit à l'erreur. Donc, ils démontent les moteurs, ils sortent les moteurs des cadres, ils les remontent, voilà, c'est des petites choses.
Ils sortent tout, ils démontent tout, ils contrôlent tout. C'est vraiment impressionnant, ils dépoilent tout et allez, c'est parti. On a eu le mec qui parlait de 11 heures de travail entre chaque course, rien que pour remonter la moto, enfin, de la démonter, la contrôler, la remonter. Donc, ouais, les mécanos, ils ont du taf aussi, ouais.
Et pilote français, bien sûr, hein, voilà, c'est sympa d'aller discuter leurs ressentis, voilà. Comme Julien Tognotti,
c'est Xavier Denis qu'on a croisé du Team Optimark avec son coéquipier qui est Julien Tognotti, donc le multiple champion de France de rallye, qui roulait pour la deuxième année au TT avec une Yamaha R1 et une Yamaha R6 en super sport. Et c'est vrai qu'il nous expliquait un peu tout ce qui se passait. Et au final, c'est vrai que c'est vachement intéressant d'être en lien direct avec lui. Il t'explique vraiment bien ce qu'il ressent.
On l'a attendu à son motorhome, à sa tente, après un tour de circuit. Et en fait, il y a un gars qui a cassé son moteur devant lui. Donc on parle de 220 km/h de moyenne. Il faut s'imaginer dans la montagne, le mec devant lui, donc un nuage blanc. Il est revenu sur la combine plein d'huile, la moto plein d'huile, c'était juste impressionnant. Ouais, ouais. J'aurais pu mourir.
Il nous a expliqué qu'en 3 minutes, il a failli mourir 3 fois. Ah oui, et puis les gars, ils retournent encore. Ils sont quand même barrés.
Ça te plairait, Aurélien, parce que je sais que tu as participé au Superbike, ouais. Super Sport en Belgique.
Ouais, ça doit être sympa à faire. Je sais pas si
ça te plairait de faire la course.
Je sais pas. je mets un joker.
Il faut en avoir.
Faut en avoir.
En gros, c'est Chimay, hein, mais c'est aux 60 bornes. Hein.
Ouais. Avec un terrain qui est complètement déglingué par rapport à Chimay, où Chimay tout est refait. C'est vraiment un beau tracé. Là, ouais.
Avec des trottoirs en centre-ville.
Des trottoirs.
Donc, alors le paddock, c'est gratuit. Tout le monde peut rentrer. Il n'y a pas de problème. On peut aller voir discuter, le travail des mécanos, avec des pilotes.
Tu peux voir Michael Dunlop, Guy Martin. On a croisé aussi John McGuinness.
Si vous parlez un petit peu anglais, si on parle anglais, on peut toujours discuter avec. Une fois qu'on est coincé, quand la. Quand les jours de course, on peut plus bouger. Hein, il faut choisir un endroit. On a du mal à pouvoir aller dans les paddocks un jour de course.
Vraiment. Alors si on se trouve à l'extérieur du circuit, pas de souci. Oui. C'est l'avantage, c'est que par les petites routes, on sait faire tout le tour du circuit. Il y a qu'à Ballot Bridge ou là.
Ballot Bridge et Kirkmichael. Là, c'est pas possible.
Mais
parce que c'est la seule route.
10 km, quoi. Voilà. Mais sinon, tout le reste, on sait aller se poser et regarder. Alors il y a 3 ou 4 files de personnes devant soi, donc c'est mieux d'y aller le matin, de se poser un peu comme au Touquet ou sur d'autres gros événements pour la bonne place. Mais
non, c'est bon, ça, ça veut dire qu'il faut venir avec son ravitaillement. Hein.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors il y a beaucoup
son petit sandwich.
Ils
sont bien. Si tu restes toute la, on reste toute la journée.
Avec
sa bière.
Les bières anglaises sont pas terribles. Ouais, voilà. Bon. Mais... on fait avec.
On n'a plus beaucoup de temps. On va revenir un petit peu sur un grand rendez-vous pour les Français, surtout. Hein. Un grand rendez-vous des Français. Le rendez-vous des Français, donc
le puits. C'est un puits.
La fontaine, c'est un puits à Douglas.
Un puits à Douglas, c'est ça.
Alors, c'était bien.
Ouais, super. Génial. Avec les pilotes, dont les deux filles qui étaient quand même 6e en course. Hein,
en course 2, ouais, en sidecar. Voilà. Avant d'avoir un problème technique avec la pompe à essence, elles étaient 6e.
Et donc elles viennent, Julien Tognotti vient, Xavier Denis, on discute, super.
Vraiment,
des échanges,
ouais,
on rencontre des poids de vin, on rencontre
des Marseillais,
voilà, des gens de partout, des, super.
Des Lyonnais.
Très convivial, voilà. Très convivial.
Et on vient pas les mains vides.
Et c'est ça.
Ah non, sinon ça va pas le faire.
Dites un peu.
Donc chacun, nous on a pris
des bières de chez nous.
Des bières de chez nous là cette année. Donc chacun pose ce qu'il ramène sur le puits, le fameux puits. Et donc tout le monde se sert. Voilà. Donc ça va vous faire à volonté quoi, tant qu'il y en a.
Voilà. Et puis voilà. Donc on goûte les spécialités de chacun.
C'est ça.
Voilà.
Tout à fait.
Très bien.
Et voilà. Et ça délie la langue au fur et à mesure.
Voilà. Donc ça dure jusqu'à quelle heure là? Faites
3 heures quand même. Ouais. Il y a encore
3 heures du matin?
Non,
22-23 heures.
Mais on a commencé à 19h.
Ah oui, quand même.
Ouais. Voilà. Après, il y en a un paquet qui sont partis pour aller manger tout ça. Donc après, il faut éponger.
Oui. Ça dépend si tu as bu du coca, du soda.
Ouais.
Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose un peu précisé aux auditeurs qui voudraient faire le voyage l'année prochaine?
Ah ben, bon courage pour réserver les billets. Ouais. Sinon, il y a une session de rattrapage au mois de février, parce que il y en a qui, en fait, au mois de mai, on fait que la pré-réservation, et ceux qui peuvent pas y aller, donc du coup, ne payent pas le complément. Et du coup, là, ils remettent en vente des places fin février. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire à regarder pour essayer de trouver une place.
En tout cas, allez-y, que ce soit au niveau de la diversité
des motos, l'ambiance.
On a vu tout type de motos, les gens. On a parlé avec 7 ou 8 nationalités différentes.
C'est génial.
Gens qui venaient de partout en Europe et les courses.
Des Polonais, on a croisé des Polonais, des Tchèques.
Et ben moi, je peux.
Merci, alors, l'ami.
À vos claviers, les réserver, parce qu'il n'y a qu'une seule compagnie, c'est la Steam Racket. Ils ont réussi Racket. C'est aussi impressionnant parce qu'il n'y a pas de bagnole. Et pas de camion le jour du truc. Il
n'y
a que des motos qui sont alignées dans le ferry.
C'est impressionnant.
Ça met du temps à accrocher les motos.
Il faut deux heures. Par contre, pour redécharger, il y en a pour 10 minutes.
Ouais, chacun enlève son
petit moto. C'est aussi quelque chose à voir.
C'est à voir.
Every minute, every hour, you'll be shaking, miles changing. Mais alors, et je vais vous dire quand même, en tant que Dakarquois, j'ai jamais entendu pas trop parler de Radio Campus, mais à partir d'aujourd'hui, et je vais te brancher tous les jours sur 106.6, bande d'enculés de Lillois.
Alain Loiseau qui m'a fait plaisir de m'accepter dans son groupe et avec qui j'adore rouler parce qu'il connaît toutes les petites routes des Flandres et du nord de la France, presque tous les événements, et qui va nous présenter un petit peu la démarche qu'il a eue en créant le LVM, le Lille Vintage Motorcycle.
Alors en fait, la démarche remonte à loin, puisqu'en fait ça remonte. En fait, j'ai toujours eu ça dans le sang. Tu vois, cet esprit communautaire, de rouler en équipe, de rouler ensemble, de rouler avec des copains, ça a toujours été quelque chose en fait qui a été dans mes gènes. Et là, on va remonter très très loin. Mais ce qui m'a passionné dans la moto, ça a été le premier Dakar, mais c'est surtout quand j'écoutais Max Meynier lors du tout premier Dakar. Et j'écoutais ça, j'étais gamin, j'écoutais ça dans ma chambre. sur la radio et je les voyais partir ensemble en équipe. Et je me suis dit, mais ça va être formidable d'être là entre potes, avec le même objectif, la même passion, et on part complètement à l'aventure. Et je, tout le temps, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose où on puisse partir avec des copains, où on puisse partir ensemble, où on puisse partager les mêmes choses avec les motos qu'on a, sans chercher à avoir quelque chose de mieux que l'autre, sans vouloir quelqu'un qui roule plus vite que l'autre, qui est plus fort que l'autre. Mais non, c'est être entre potes et chacun avec ses qualités et ses défauts. J'ai pu concrétiser ça, en fait, finalement, bien plus tard, parce que même si j'ai passé mon permis moto, dès 18 ans, ma première moto, j'ai acheté, j'avais 27 ans.
Et quoi ta première moto, alors, du coup ?
Écoute, ma première moto, c'est genre, je me suis acheté une 750 Intruder.
Ah, déjà ?
Ouais. J'étais rentré dans le magasin pour m'acheter une 600 Ténéré, parce que j'étais resté avec l'esprit avec du Paris-Dakar. Et j'ai vu, mais j'adorais de toute façon les motos américaines. Sauf que les motos américaines, à l'époque, pour moi, c'était complètement hors de prix. Quoi. La 883, je me souviens, elle était à 55 000 francs. Donc, de toute façon, pour moi, c'était le prix d'une VMAX, pour donner une petite idée. Et je rentre dans le magasin, c'était chez Ducrot, rue Inkermann, et il y avait cette 750 Intruder qui était là en vitrine, bleu pailleté, qui était absolument magnifique, à 35 000 francs. Je me souviens bien des prix, c'est quelques fois, vous les vérifiez. Ouais, j'ai craqué dessus, en fait, j'ai complètement craqué dessus. Et ça a été mes premières aventures en moto. J'ai fait le Tour de France et ça a été mon premier road trip. Je ne connais strictement rien. J'avais juste des Santiago, un Levis, un Fly Jacket. J'ai acheté un Kiwi au cas où il pleuvrait. Et c'était tout. Voilà, et tout ce que j'avais, donc il n'y avait pas de GPS, on n'avait pas de carte. On s'était dit, bon, on va aller d'abord vers l'ouest, donc du côté de La Rochelle, on s'était dit, on va aller par là, on va longer l'Atlantique. Puis en fait, on partait comme ça avec un copain qui avait hérité de la BMW, c'était une R75 série 5 des années 72-73 de son oncle. Et on est partis comme ça tous les deux, on est partis faire le Tour de France avec notre tente, nos sacs en plastique, et puis... Notre insouciance.
Ah bah c'est super, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, après, on a fait tous notre premier voyage. Bon, on ne racontera pas tous nos guerres. Je voudrais revenir sur le LVM. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le LVM ?
Alors, le LVM, en fait, j'ai voulu créer un réseau Facebook. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de se retrouver avec le même style d'esprit, le même style de moto. Ça fait quelques années que la moto vintage est à la mode. On a vu ça avec l'apparition des magazines comme Moto Heroes et les événements comme le Wheel and Wave et le Ice et bien d'autres qui existent en Angleterre ou à travers l'Europe. Deux gars qui ont envie de retrouver un petit peu l'esprit, c'est un petit peu l'esprit hollywoodien ou cinématographique, de la moto de façon Steve McQueen des années 50-60, avec des motos néo-rétro qu'on retrouve chez Triumph, Ryan Field, Harley, etc. Et je voulais retrouver un petit peu cet esprit-là et pouvoir organiser, parce que j'adore ça, pouvoir organiser des soirées apéro, organiser des week-ends, aller tous ensemble sur des événements. Et pouvoir rouler ensemble de façon cool, de balade, où en fait c'est la camaraderie et la solidarité et le plaisir qui comptent avant tout.
C'est vrai qu'on peut parler de camaraderie, on peut parler de solidarité, parce qu'on l'a vu l'an dernier, quand un des membres du LVM il avait eu un grave accident et on a été tous là et tout le long de sa rééducation.
Oui, c'est vrai qu'Hervé, quand il est tombé, bon, malheureusement il est mal tombé, pas vite. Bon, c'est un accident qui nous est tous arrivé à un moment d'inattention et au moment où il fallait pas. Et bon, effectivement, et c'est quelqu'un qu'on a accompagné tous les week-ends en allant le voir à l'hôpital.
Exactement.
Jusqu'à sa sortie.
Donc les groupes du LVM, je connais bien, vu que pour quelqu'un qui roule en moto et d'un certain âge, je dirais. Parce qu'on se retrouve entre... Mais ça fait des chouettes sorties. Ça fait, Alain, il a toujours les plein d'idées. Je sais pas comment ça demande. Tu fais comment pour tout savoir là, en fin de compte? Tu te renseignes
Simplement en fait inscrit. Jouer avec les réseaux sociaux, t'as une ouverture sur le monde. Mais oui, c'est sur le monde et ça permet en fait d'être au courant de plein d'événements qui peuvent exister. Moi, ça va se consacrer sur le nord de la France et sur la Belgique ou l'Angleterre. Mais voilà, on a accès, il faut chercher, bien sûr, il faut aller sur les bons sites. Après, c'est une recherche, et c'est une recherche, il faut noter, il y a des événements qui ont lieu dans 6 mois, dans 1 an, bon, on les note, et puis on sait que dans 1 an, il faut y aller. Mais ça me plaît, en fait, c'est une activité que j'aime, et j'aime bien découvrir à chaque fois des nouvelles choses, des nouveaux événements, des nouveaux lieux, des nouveaux endroits.
Des nouvelles personnes aussi. Et je dirais, combien nous sommes au LVM en fin de compte ?
Aujourd'hui, 250.
Combien ?
250.
250 personnes, d'accord.
Ouais, 250, mais il y a, comme dans tous les groupes, hein, de toute façon, c'est classique.
Des gens qui...
T'en as 20 qui sont actifs.
D'accord.
Mais ça fait partie des groupes Facebook, c'est une
division, ça vient, ça part,
une
ça...
multiplication, ouais, ce que tu veux, ça. En fait, c'est classique.
Exactement. Tu as créé le LVM, et comment s'organise le LVM, en fin de compte, le Lean Vintage Motorcycle ?
Ouais, alors le LVM, en fait, c'est un groupe Facebook. Tout le monde peut y avoir accès, il suffit simplement de faire la demande. Alors le LVM, ça veut dire exactement Lille Vintage Motorcycle. Donc c'est un groupe privé. On peut nous retrouver également sur Instagram. Et là, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Les photos sont en public. Et les seules conditions, en fait, pour entrer dans le LVM, qui est le Lille Vintage Motorcycle, bon, forcément, c'est un groupe Facebook, donc c'est gratuit. On vient si vous avez envie, vous venez quand vous voulez, vous venez une fois par an, deux fois par an. Vous pouvez venir toutes les semaines, c'est vraiment libre. C'est quand vous êtes dispo. Et moi, en fait, j'organise des sorties, j'organise un apéro le vendredi soir, j'organise une rencontre, des rencontres le samedi après-midi, où on se retrouve le samedi après-midi au Zen, pour prendre un café, pour faire un tour, pour faire une petite balade dans le coin. Et souvent le dimanche, en fait, il y a une véritable balade où on va sur des événements que j'aurais sélectionnés dans le coin. Et s'il n'y a pas d'événements dans le coin, on fait une balade dans les web, on fait une balade dans le Hainaut, en Belgique, ou suivant le temps, suivant la température, suivant les endroits qu'on aime.
Comme c'est pas un club, est-ce qu'il a vraiment des formules d'adhésion et des réunions ou des choses comme ça?
Il suffit de demander son adhésion sur le groupe Facebook. C'est comme tous les groupes Facebook. J'ai juste en fait demandé quel type de moto a le gars. Parce qu'en fait, c'est un groupe, comme le nom l'indique, on est plutôt axé sur les motos classiques. Donc ça va être du scrambler, ça va être du café racer, ça va être de la moto classique comme on peut voir avec Royal Enfield, Triumph, etc., Harley, et toutes les gammes classiques que toutes les marques sortent actuellement. Également les motos anciennes, hein, bien sûr. Toutes les néo-rétro qu'on peut voir des années 90, 80, 70.
Mais il n'y a pas d'abonnement.
Non, il n'y a aucun abonnement. Tout est gratuit.
Et quelque part, le moyen de communication qui est utilisé... Moi, je connais le WhatsApp.
Le WhatsApp, en fait...
Parce qu'on reste connecté entre les membres du groupe grâce aux réseaux sociaux, en fin de compte.
Oui. Alors, le WhatsApp, il n'est pas ouvert à tout le monde. En fait, là, le WhatsApp, je ne l'ai réservé qu'aux personnes qui roulent régulièrement avec nous.
D'accord.
Parce que je ne veux pas que des conversations X, Y ou Z soient diffusées auprès de personnes qu'on ne connaît absolument pas.
Oui, qui voilà.
Donc, une certaine forme de confidentialité, j'ai voulu en fait garder le WhatsApp aux gens que je connais personnellement. Alors que le groupe Facebook, tout le monde peut y aller. On peut y aller juste pour regarder, si on a envie de juste voir ce qui se passe dans le groupe ou juste les événements qui sont proposés le week-end.
D'accord, exactement. Alors j'ai observé aussi, maintenant on a quelque chose qui est un peu plus poussé. Parce que les événements, il y a des événements qui sont aussi plus loin. Et est-ce que vous avez été, les derniers événements que vous avez fait importants cette année, ça a été quoi? Quand vous êtes allé en Angleterre, par exemple?
Alors, on est en Angleterre, parce qu'en fait, j'avais rencontré il y a quelques années, c'était chez Légion Motor, qui était à rue de Saint-André. J'avais rencontré l'équipe de Mal London. Alors, Mal London, à l'époque, c'était surtout une boîte qui faisait la sellerie, bagagerie moto, vêtements moto. Vraiment des très très belles choses. Et c'est très haut de gamme. Ces gens, en fait, se sont mis à faire de l'événementiel. Ils ont commencé à organiser des courses sur plage, organiser des courses sur prairie, mais dans des lieux exceptionnels. Et là, c'est le dernier événement qu'on a fait, puisqu'on a fait des courses sur prairie dans un château qui était absolument magnifique au nord de Londres. Et tout le week-end, en fait, il y a des balades qui sont proposées à travers la forêt. De Sherwood, hein. des courses départ arrêté sur 400 mètres sur la terre, des courses de slalom toujours sur la prairie, et tout ça en fait qu'avec des motos anciennes.
D'accord.
Et là, dans un esprit de plaisir, parce qu'en fait, il n'y a rien à gagner. C'est juste pour le plaisir d'être là, d'être ensemble et de partager des bons moments.
Et donc, quand on se déplace comme ça, quand c'est le LVM, c'est organisé
Alors moi, j'organise, en fait. Moi, j'organise, je repère, en fait, les départs de ferry. J'organise la logistique pour que, par rapport, par rapport aux véhicules qui doivent nous emmener. Bon, là, comme c'était en fait du off-road, il nous fallait des camionnettes avec des remorques pour monter les trails, hein, les trails qui étaient montés en pneu cross. Il y avait quand même 300 km à faire entre Douvres et le lieu. Donc, il était hors de question d'y aller par la route en moto. Donc, je réunis en fait les gens qui ont déjà des camionnettes, qui ont des remorques. Et puis, on se met ensemble pour monter le maximum de choses.
Et donc, on met en commun les moyens pour réussir à monter les choses.
Oui, c'est ça. Et après, en fait, les billets, ils sont pris chacun, soit individuellement, soit en groupe de camionnettes. Quand ici, il y a des réservations à faire sur place, c'est chacun qui le fait. Mais je partage en fait tous les liens pour que chacun prenne personnellement ses places.
D'accord.
Donc, moi, je ne commande pas en fait de billets en commun pour tout le monde. Je propose en fait juste en fait la logistique et tous les liens, tout ce qu'il faut pour que chacun puisse y aller.
Et après, chacun apporte un petit peu ce qu'il veut.
Et chacun apporte ce qu'il veut. Quand on est allé comme ça en Angleterre, chacun ramène du matériel, une table de camping, des chaises de camping, ramène les chips pour tout le monde, les biscuits pour l'apéro, les cahuètes, etc. quoi. Et l'eau gazeuse.
Et donc ça se passe dans une bonne ambiance et
dans une bonne ambiance
de chacun, un peu comme les clubs à l'ancienne, quoi.
Un peu comme le club à l'ancienne, oui, exactement.
Bringing the love back to life. un très grand voyageur, c'est Eric. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, j'aimerais que tu expliques un peu tous tes voyages aux auditeurs de Radio Campus Lille et de Kikinkout et Toupal.
Oui, alors l'idée, c'était à la base de voyager avec une machine qui est très ancienne, qui est de 1939, avec un sidecar. Alors voyager comment ? Voyager un petit peu dans les conditions où on le faisait dans les années, on va dire, 50, où on voyageait par plaisir uniquement, avec un minimum de moyens financiers. C'était ça l'idée, qu'on a, j'espère, réussi, parce que les budgets étaient très réduits à chaque fois. Alors je ne sais pas si ça va parler aux gens, mais on ne dépassait pas les 2000 euros pour un voyage de 3 mois, tout compris, visa compris, ce qui est très peu, puisque objectivement, on essayait, d'abord, le budget nourriture était réduit au minimum, ou au maximum, je ne sais pas comment on peut dire ça, de 4 euros par jour pour pouvoir manger. Ça, c'est un truc, c'était indispensable.
Ça, c'était
pour
à quelle
pouvoir...
époque, ça ?
Alors, ça s'est échelonné entre 93, je crois, et 2023 à peu près. Voilà, il y a eu une trentaine d'années de voyages un petit peu exotiques, on va dire, qui nous a amenés en Amérique du Sud, qui nous a amenés au Népal, qui nous a amenés en Russie beaucoup, l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la route de la soie mythique pour tout le monde, et rencontrer des gens qui à chaque fois nous ont accueillis de manière extraordinaire.
Ah, tu dis nous, parce que vous étiez plusieurs ?
Alors, oui, souvent on était à deux avec le sidecar, quelquefois même à deux sidecars identiques à celle-là. Et donc, bah voilà, on était à deux à chaque fois, au minimum à deux.
D'accord, et donc, comment ça marchait ? Tu campais ? Vous êtes allé chez l'habitant ? Comment ça marchait le soir ? Pour manger aussi, également ?
Alors, pour manger, on s'arrêtait au moins une fois par jour dans les troquets locaux, les trucs pour les routiers, hein, le truc qui te sert une tambouille qui va bien, qui est saine et pas chère. Et le soir, on s'arrêtait, on essayait de s'arrêter avant la nuit, parce qu'on ne roule pas de nuit, c'est trop dangereux.
Oui.
Et on trouvait un bivouac quelconque sur le bord de la route. Moi, ça m'est arrivé de camper sur des trottoirs de village, au milieu des gens.
T'avais la tente avec toi ?
Oui, avec la tente, ouais. Ouais.
D'accord.
Alors, ça, suivant les températures, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais dans l'absolu, c'était la tente en priorité. Alors, certains pays comme la Russie, alors je sais bien que là, de nos jours, la Russie...
Ah, la Russie, c'est embêtant, oui.
C'est un petit peu... c'est pas politiquement correct de dire ça, mais on a été accueillis d'une manière fantastique par les motoclubs locaux, qui sont très efficaces là-bas et qui sont très solidaires entre eux.
D'accord. Et quel pays t'as le plus marqué, en fait ?
Eh ben, la Russie.
Que éventuellement la Russie, oui.
Ouais, ouais, la Russie, c'est un, ouais. C'est un pays, j'appelais ça le Far East, parce que ça ressemble un peu au Far West des grandes années.
Avec, alors, c'était à quelle époque ? Faut recentrer un peu le...
Alors, pour recentrer, le dernier voyage qu'on a fait, c'est pas très vieux, c'était en 2017. Et un autre voyage important qu'on a fait, c'était en 2014, où on a traversé la Russie en hiver, avec les conditions climatiques qu'on imagine. On a eu du moins 40 pendant un certain temps. L'idée à la base de ce voyage était d'aller poser les roues de la R12, puisque la moto s'appelle R12, BMW
R12. Il va falloir que tu nous parles de ta moto. Hein.
Oui, bien sûr, mais c'est elle la principale.
En fait, c'est un attelage, hein, c'est avec une moto, avec un side.
Avec un sidecar, oui.
Ah, voilà.
Moi, j'ai jamais pu dire side. Moi, je sais pas pourquoi, j'y arrive
pas. Ou sidecar, hein. Je sais pas moi.
Oui, non, mais moi j'aime bien sidecar. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et donc l'idée, c'était de poser les roues de la moto sur le Baïkal, qui est un immense lac, le plus grand lac peut-être du monde, qui est gelé évidemment l'hiver, puisqu'il fait des températures extrêmes, une épaisseur de glace, je crois, qui va jusqu'à 1,50 m. Oui. Donc on peut rouler sans problème avec le sidecar. Donc l'idée, c'était ça, de poser les roues de la moto sur ce lac Baïkal.
D'accord, mais là tu campais pas, là ? Comment tu fonctionnais ?
Eh bien si, on a campé, disons, à 85% du temps, on a campé.
Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue quand même, parce que tu dis, il faisait moins 35, moins 40, comment on se protège du froid ? Comment on peut rouler par moins 35, moins 40 et dormir sous la tente avec des températures
Alors,
de cet ordre-là ?
Pour être franc, à moins 40, la moto a refusé de marcher. Donc, on est resté planté au milieu de l'Oural, qui est une montagne russe. Hein. L'Oural, d'ailleurs, Irbit, les fabricants Oural, de l'Oural sont pas loin.
L'Europe et l'Asie.
Exactement. Ouais, c'est le... Et symboliquement, c'était très, très important. Parce qu'on est, on avait l'impression d'être planté à l'endroit précis où on devait passer en Asie. Donc ça, c'était un symbole fort. Et à moins 40, la moto a refusé de marcher parce que la carburation ne se faisait plus, on n'avançait plus, le moteur ne chauffait même pas. On n'arrivait pas à conserver une température qui fait que le moteur fonctionne normalement. On est resté planté 3 jours sur place. On a été accueillis dans un garage qui nous a offert le gîte. Et le couvert d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est vraiment très très bien accueillis là-bas. Pendant ces 3 jours, en essayant de trouver une solution avec des camions de passage pour désatteler la moto, la mettre dans un camion pour passer ce cap. Puisque après on descendait, on retrouvait des températures à peu près acceptables, de l'ordre de moins 20, moins 25, qui sont des températures où la moto fonctionne.
Oui, c'est acceptable. Moins 20, moins 25, c'est acceptable.
Ben pour la moto, moi, en fait...
Mais pour le pilote et les passagers, alors, comment fait-on ?
Alors c'est rigolo, parce que le froid, c'est un peu comme la chaleur extrême. On ne s'en rend pas compte de ce que c'est. Passer les moins 20... On ne voit pas la différence réellement entre moins 20 et moins 30, moins 40. Mmh. C'est ça qui est d'ailleurs très dangereux, parce que c'est là qu'on se met en danger. Et donc, le pilote, c'est pas qu'il appréciait les moins 40, mais on ne voyait pas bien la différence. C'est très curieux, curieux. C'est pareil, la grosse chaleur entre 50 et j'en sais rien, 30 degrés. Bon, on a chaud, quoi. Hein, voilà. Donc on se protège comme on peut. Moi, j'ai jamais eu de matériel sophistiqué moto. Ouais. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'équipement de moto. D'accord. Moi, je voyage avec les surplus de l'armée en général. Okay. C'est pas toujours très esthétique, mais c'est pas cher. Et puis, finalement, ça protège pas mal.
Parle de ta moto, hein, parce que c'est pas une moto récente. Hein.
Non, alors la moto est de 1939, parce que c'est vrai qu'on a passé un...
C'est la retraite de Russie, ça, le 39.
La retraite...
campagne, hein, c'est la campagne de Russie.
Oui, la retraite de Russie, c'était autre chose. Ouais. Mais 1939, oui, c'est la grande époque de la moto...
C'est la soupape latérale, c'est ça?
Soupape latérale, 750...
Ça, c'est plus, hein, ça.
Non, ça se fait plus.
C'est plus à la mode.
Et c'est pas. Ouais, ça manque un petit peu de puissance.
C'est
va
ça,
dire.
Oui. Ouais.
Vous avez
mais il y a un gros avantage, c'est que ces moteurs-là tournent très lentement et ont très peu de compression, ce qui fait que l'embiellage supporte beaucoup de choses.
Oui.
Et même à la limite, il supporte d'être un peu usé, on va dire.
D'accord.
Donc on tombe pas vraiment en panne. C'est ça qui est bien.
Voilà. Et aujourd'hui, ici, au Coupe Moto Légende, tu es venu avec.
Ah ben oui, comme à chaque
alors,
fois.
Alors, elle a combien de kilomètres cette moto?
Alors, on n'en sait trop rien. Encore un symbole. J'ai jamais pu, sur cette moto, avoir un compteur qui fonctionne. Ah. À chaque fois que je l'ai réparé, il a cassé pour telle ou telle raison.
Oui.
Donc, à un moment, j'ai dit, je laisse tomber, on verra bien. Et puis, on n'en a pas besoin, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, les kilomètres purs, je ne sais pas. Mais un jour, j'ai fait le compte de tous les kilomètres en voyage. Et on doit avoisiner les 160 000 kilomètres de voyage.
D'accord.
Mais je m'en sers tout le temps.
Alors, tu parlais du Népal aussi.
Du Népal, oui, bien sûr.
Ouais,
bien sûr.
Ça devait être impressionnant aussi comme voyage.
Oui. Alors, moi, j'aime bien les choses importantes. Il y a deux choses que je voulais faire, enfin, trois choses. Je voulais que la moto aille vers, parce que n'exagérons pas, vers l'endroit le plus élevé du monde, qui est l'Everest, et le Népal, enfin l'Everest c'est
Népal. Ah mais c'est pas possible
en
moto.
Mais on s'est approché, on a été le plus près possible de l'Everest, peut-être à 200 km quand même. Hein. Pareil pour l'Amérique du Sud avec la cordillère des Andes, donc les deux plus grandes montagnes du monde. Mm-hmm. On est allé au Cap Nord, tout au nord du continent,
ouais,
avec la moto, et on est allé à Ushuaia, tout au sud du continent d'Amérique du Sud.
Avec cette moto qui est présente aujourd'hui,
voilà,
c'est
ça.
Ouais.
Et moi, il y a une chose qui m'épate toujours quand je suis dans la vie de tous les jours, c'est que je la vois dans le garage, je me dis, ah, putain, c'est quand même incroyable, c'est pas possible qu'on ait fait tout ça, c'est pas possible.
Ouais, non.
Même moi, je n'arrive pas à réaliser ça.
Et alors, tu faisais quoi comme travail pour pouvoir faire tous ces voyages?
Ah, mais j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai été pendant 15 ans militaire. J'ai pris une retraite très tôt.
Ah, oui.
Et ça m'a permis, même sans beaucoup de moyens, de programmer des choses comme ça. Mmh. Mais c'était une période idéale parce que justement, on arrivait à trouver des combines pour monter des projets comme ça. Ça devient
et puis
de
c'était
plus
une époque
plus
où on pouvait encore, on va dire, facilement voyager dans les pays.
Pour certains pays, oui.
Oui.
Bah, ouais. Moi, j'ai une chance extraordinaire. J'ai connu la Russie dans la meilleure période pour voyager là-bas. Il y a eu un créneau qui était relativement restreint, qui a duré peut-être 8-10 ans, où la Russie s'est ouverte, où malgré le visa, il fallait un visa, mais on n'était pas emmerdés sur la route. Il n'y avait pas de tension avec les populations locales, pas de tension avec les autorités. Ça se passait super bien. Voilà. Et ça s'est refermé aussi vite que ça s'est rouvert.
D'accord. Est-ce que tu as des projets encore là ou c'est terminé, toutes ces histoires de voyage?
Non, je n'ai pas de projet pour l'instant. Bon, évidemment, quand on est piqué au voyage un petit peu au long cours, c'est difficile de tourner la page. Mais la situation actuelle est tellement tendue un peu partout que c'est très compliqué. Et surtout, tous les tarifs, bon, carburant déjà, mais les tarifs de visa ont augmenté, les tarifs de carnet de passage en douane, qui est une sorte de passeport pour la moto, enfin le véhicule, ont beaucoup augmenté aussi, ce qui fait que c'est plus dans mes moyens. Là, actuellement, là, je peux pas m'organiser comme ça. Habituellement, à chaque fois, je vends une de mes motos pour payer le voyage.
Ah ouais.
Ben là, même en vendant la moto, non aussi, parce que j'en ai toujours une que je retape, etc. Mais même en vendant la moto, je n'ai pas les moyens de faire ça.
D'accord.
Alors dis-moi, là, tu dis que tu es allé jusqu'au Népal avec ta moto, en passant par où?
Alors, on a un peu triché. Hein. Ouais. Elle est partie jusqu'à Bombay par bateau.
D'accord.
À l'époque, on a eu la chance, bon, j'étais bien entouré. Il y avait des copains qui ont participé au voyage, qui avaient des bons contacts et qui nous ont permis d'avoir un sponsor qui nous a payé le transport.
D'accord.
Donc on l'a récupéré au Népal, à Bombay, en Inde, à Bombay. Et de Bombay, on est allé jusqu'au Népal par la route. Du Népal, on est revenu en Inde, Pakistan, Iran, Turquie, par la route. Et je suis rentré comme ça. Donc l'avantage, c'est que ça nous faisait gagner du temps, quoi.
Bien sûr. Ah, ça semble incroyable, hein, de pouvoir faire de... Vous êtes passé par le Pakistan, l'Afghanistan.
Oui, actuellement.
Alors,
oui,
pas, pas l'Afghanistan, c'est... on a contourné l'Afghanistan.
Okay, d'accord.
Alors, paraît-il que là, actuellement, des gars traversent l'Afghanistan. Mmh. Alors, j'avoue que ça m'a toujours tenté. Maintenant, il faut déjà arriver jusque-là. Et l'Iran demande un carnet de passage en douane, je crois, à 7000 balles, 7000 euros.
7000 euros.
Là, j'ai pas les moyens. Avant, c'était 2000 euros, ça coûtait 2000 euros. Mmh. J'arrivais à trouver des gars qui me prêtent 2000 euros comme ça, parce que comment on appelle ça on est remboursé au retour quand on a ramené le véhicule.
D'accord, c'est une taxe
c'est
qui est payée
caution.
Pour
caution.
Éviter une caution,
c'est
pour
une
éviter
caution.
Qu'on la rende sur place.
Voilà, exactement, théoriquement, ça sert à ça. Bon, maintenant, après, on sait très bien que c'est une histoire de gros sous et que ça intéresse tout le monde. Mmh. Mais l'Iran a décidé depuis quelques années de multiplier par deux ou trois ses tarifs, ce qui fait que ça devient complètement impossible. Et pour aller en Afghanistan, il faut traverser l'Iran et le Pakistan. Le Pakistan, ça va à peu près, mais c'est l'Iran, quoi. Là, donc voilà, c'est plus possible.
pourrais donner des conseils éventuellement à des jeunes qui éventuellement auraient envie de voyager? Alors peut-être pas comme tu l'as fait. Est-ce que tu aurais des conseils? As-tu des conseils à donner?
Je connaissais un gars qui a voyagé beaucoup avec un oral, qui est décédé depuis parce qu'il avait une grave maladie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait tout laissé tomber, il avait tout lâché. Il était parti pendant 10 ans par les routes. Qui disait n'oublie pas chaque jour de prendre un risque. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un risque, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire aller au-devant du danger. Mais ça veut dire, quand on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller, on se donne les moyens. De toute façon, quand on a envie de quelque chose, il faut s'en donner les moyens, c'est comme ça. Et une fois qu'on s'est donné les moyens d'arriver à ses fins, on y arrive. Parce que de toi le ciel t'aidera, etc. On peut prendre plein de maximes comme ça. Mais c'est tellement vrai, tellement vrai.
Très bien. Et puis il y a un proverbe chinois qui dit qu'une marche de 1000 km commence toujours par le premier pas.
Absolument.
C'est le plus difficile à faire.
Souvent on m'a dit...
Et une fois que c'est parti, c'est parti.
Ouais. Et souvent on m'a dit, mais... Hey, attends là, bon, je dis ça sur le ton de la plaisanterie un petit peu, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans les voyages? J'ai mis le plus difficile, c'est le premier jour... d'ouvrir la porte du garage, de sortir la moto, voilà. De monter dessus et de partir. Et après, c'est tout droit. C'est un peu vrai. Et chaque jour est une aventure. C'est ça qui est merveilleux. Et ça, c'est un truc que je recommande à tout le monde. C'est de partir sans un but précis. Ou si tu as un but, il est relativement loin. Ça veut dire que toutes les journées que tu vas passer pour atteindre ton but, tu ne sais pas où tu vas atterrir, tu ne sais pas où tu vas t'arrêter, tu ne sais pas si tu vas bouffer, tu ne sais pas si tu vas trouver du carburant, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est une aventure.
Tu te rends compte, c'est l'aventure quand même.
Oui, mais c'est génial.
À notre époque où tout est bien formaté, où il n'y a plus de danger.
Et voilà. Eh bien oui, mais justement, on s'aperçoit qu'on peut le faire malgré tout ça, quand on sort de nos frontières, parce qu'il faut quand même sortir des frontières européennes pour retrouver un semblant d'aventure, entre guillemets. Moi, j'ai été passionné. Moi, j'ai vécu toute mon enfance avec Tintin. Par exemple, j'ai appris à lire avec Tintin les récits d'aventure des grands explorateurs, tout ça, on a été gavés de tout ça. Et j'ai toujours été passionné par cet esprit où, alors des gens qui en plus n'avaient rien là. Quand ils partaient, ils ne savaient pas où ils allaient là, hein. Nous on sait à peu près où on va, hein. Même si on n'a pas de GPS, etc., on a suffisamment de cartes détaillées pour ça. Et donc passionné par ça, et on s'aperçoit que la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est d'avoir envie de ce qu'on va faire. Le reste, ça vient naturellement. Et tous les ennuis qu'on peut avoir sur la route, c'est du bonheur. Parce que...
c'est de l'expérience.
Et puis un ennui entraîne une expérience, une aventure avec un type que tu vas rencontrer, qui va te sortir de la merde. Tu ne sais pas pourquoi il était là. Il fallait que ça arrive là. Et ça, j'ai vécu ça des centaines de fois.
Alors, des anecdotes, tu dois en avoir des centaines. Tu dois en avoir des centaines. Et j'ai une question très bête à faire, peut-être difficile. Si tu en avais une à raconter, ce serait quoi?
Ça va être dur. Hein.
Ah bah oui, je me doute
ça,
bien.
Ça va être dur. Hein. Mais j'en ai une, mais elle est un peu longue. Mais ça fait rien, je vais la faire courte. Retour de Russie, en Russie, retour du Baïkal. J'ai 1000 km à faire avec un visa qui a couru parce qu'on a perdu du temps en Mongolie. Donc je suis obligé de rouler plus que d'habitude, c'est-à-dire 300 km par jour, ce qui paraît rien. Mais qui, avec une machine comme ça, est beaucoup, dans des conditions relativement difficiles, parce que la route complètement défoncée par le dégel, etc. Donc je fonce, je suis tout seul. Je sais que je n'ai pas droit à l'erreur, parce que si j'arrive après la fin de mon visa, je vais avoir des ennuis pas possibles. J'arrive dans un patelin où je suis complètement lessivé. Je vois un type, je lui dis est-ce que je peux poser ma tente là sous cet abri, parce que c'est mieux sous l'abri qu'en pleine campagne, tout ça. Il me dit non. Ah, non, tu viens chez moi. Ah bon? Bon, je suis dans un tel état que j'ai même pas la force de lui dire non, je veux pas venir. Hein. Donc je viens chez lui, il m'a installé chez lui, il m'a donné une bouteille de bière, il m'a donné une bouteille de bière, il m'a dit voilà, tu bois, je vais faire chauffer le bagna pour toi. Il m'a amené là-bas, sorti du bagna, il me portait, il m'a donné des sous-vêtements neufs. pour pouvoir me changer. Le soir, il m'a fait à manger. Il m'a dit, tiens, mon lit est là, je te donne mon lit, je vais coucher sur le canapé. J'ai dormi, évidemment, tellement épuisé. Le lendemain matin, mais je lui dis, mais ouais, mais moi, il faut que je parte tôt parce que j'ai mon visa qui court, etc. Le lendemain matin, il s'est levé avant moi. Il m'a réveillé, 6 heures du matin. Il m'a fait le petit déjeuner. Et au moment de partir, il me dit, mais t'es habillé comme ça ? C'était plus l'hiver. Hein. Il faisait un peu froid encore, mais pas tant que ça. Il me dit, mais t'es habillé comme ça ? Il me dit, bah, j'ai dit, oui, écoute, ça fait des mois que je roule comme ça. Il me dit, non, attends. Il prend dans sa, dans son armoire une parka et un pantalon fourré, tout ça. Et il me dit, voilà, ça, c'est pour toi. Et très franchement, j'ai encore envie d'en pleurer tellement c'était énorme. Énorme. Un type que tu connais pas de la veille, qui t'offre son... Alors là, c'est pour le coup, il t'offre sa chemise.
Ouais.
Et eh bien ça, c'est ça le voyage.
C'est ça le
voyage. Alors donc, ça c'était une expérience extraordinaire. Mais comme ça, j'en ai d'autres. C'est pour ça. Mais celui-là, il est resté dans mon cœur complètement. Et un type que tu revois jamais, hein, parce que t'as beau prendre les adresses, jamais tu retournes là-bas, jamais tu le retrouves. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est beau.
Et tout ça avec une R12.
Ouais. Hein ouais, et un type.
Une R12, c'est pas la bagnole. Hein.
Non, c'est pas le. Non,
c'est la moto.
Ça,
hein. Mais qu'on trouve plus chez les marchands, hein, chez les concessionnaires.
Pour rigoler, je dis, mais j'ai une R12, mais une break. Hein.
Avec un sidecar.
Voilà.
Une R12, ça fait quoi ? Ça fait 18 chevaux, c'est ça ?
Voilà, bravo, tu es un connaisseur.
18
chevaux.
Et aujourd'hui, on a tous des bécanes à plus de 100 chevaux et on s'imagine qu'on ne peut voyager qu'avec ça.
Non.
Chevaux non, avec non. Un sidecar, puis j'imagine que quand tu pars, le sidecar il est pas vide, tu dois avoir tes bagages. Ah,
on est toujours trop chargé de toute manière, toujours.
Et tu as toujours voyagé avec un sidecar? J'ai bien en solo.
Oui. Bon, j'ai toujours eu une moto solo pour me balader, oui. Mais alors, j'ai une maxime qui dit le sidecar c'est l'arme idéale en voyage parce que tu peux tout faire avec. S'il est pas trop lourd comme celui-là, enfin à la base. Après, tu le charges parce qu'il y a des tas de choses à emmener. Tu peux tout seul, presque, te débrouiller tout seul pour le sortir d'endroits un peu difficiles. Sinon, après, tu vides le sidecar et puis tu te débrouilles. Mais c'est gérable. Et par-dessus le marché, il neige, t'es pas emmerdé. La boue, t'arrives à t'en sortir. T'es fatigué, tu te reposes sur la moto. Tu dis ce matin, je suis pas en état, ma chérie. Donc tu vas faire le boulot pour moi et puis sois gentil avec moi surtout.
Ah, tu l'appelles comme ça ta chérie ?
Bien sûr. Oui. Ah mais il faut. Ah mais ces machines-là, elles ont une âme, cher ami.
Oui.
Donc il faut savoir.
Bon, ça reste un morceau de ferraille hein, quand même.
Ouais, alors moi affectueusement je dis un état de ferraille, mais quand je lui demande un effort, je lui parle pas comme ça. je la flatte un petit peu et elle me le rend bien.
C'est bien, ok.
Écoute, moi je fais un peu pareil. Alors, je n'ai pas roulé dans des conditions telles que les tiennes. Je ne suis pas allé au bout du monde. Moi, je me suis contenté de faire du tourisme en Europe à moto, en sidecar aussi, souvent.
Mais
à chaque fois, ma moto, je lui parle avant de partir. Et quand elle m'amène à bon port, quand elle me ramène à bon port, eh ben, je lui parle, je lui dis merci.
Bien sûr.
Et des fois, je lui fais même un bisou sur le carénage pour la remercier.
Mais absolument.
Parce qu'elle a une âme, c'est vrai.
Mais bien sûr. Eh oui. Objets inanimés avec une âme, mais comme ce sont des objets animés, ils en ont d'autant plus.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que ça représente en fait.
La moto.
Dès que sans elle, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait.
Tout à fait. Mais j'aurais pas voyagé comme ça sans elle. Oui, sûr. Je m'étais préparé. Le dernier voyage que j'avais programmé, c'était pour retourner en Russie. Il s'est terminé un petit peu en eau de boudin pour des tas de raisons. Et je m'étais préparé pour ce voyage-là une moto plus moderne, une 800 BM des années 90, donc avec du frein, avec un éclairage performant, un démarreur électrique, enfin la totale quoi.
60 chevaux.
Et quand il a fallu s'organiser ce voyage, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas partir avec une autre moto que celle-là, enfin que la mienne.
Voilà.
Que celle qui est là.
Ouais. Eh bien, écoute, on te remercie pour toutes ces belles aventures que tu nous as racontées là.
J'espère que ça a fait plaisir à quelques-uns.
C'est passion.
En tout cas, l'aventure, elle nous appartient et on peut tous en connaître de belles.
Eh bien, écoute, je te remercie. Et un bon retour, parce que je sais que tu vas rentrer.
Oui, là, j'ai une petite route, mais c'est sympa.
Voilà, très bien.
Sympa.
Merci, Eric.
Ben, merci en tout cas de votre accueil.
Merci.
Ben,
merci
et à très
toi.
Bientôt.
Merci à toi, c'était passionnant.
On se termine, un peu court quand même, on avait tout le monde, un programme encore chargé aujourd'hui. Et alors Laurent, alors là, Laurent, écoute, c'était fabuleux aujourd'hui.
Merci, tu es très gentil avec moi. À la semaine prochaine.
À votre prochaine.